Vous écoutez, on lit pour vous.
Et vous, comment va votre cerveau? Un texte d'Alexandre Sirois, paru le 20 août 2025 dans La Presse. Je vous pose la question parce que vous utilisez peut-être un robot conversationnel comme ChatGPT ou Gemini dans le cadre de vos activités quotidiennes. Et parce que sinon, ça ne devrait pas tarder. Alors, vous voudrez probablement savoir qu'une étude récente, publiée par le Massachusetts Institute of Technology, MIT, a démontré que ces outils d'intelligence artificielle générative ont un impact sur nos capacités cognitives. Comment l'équipe de chercheurs en est-elle venue à une telle conclusion? Ils ont formé trois groupes différents de personnes âgées de 18 à 39 ans et leur ont notamment demandé de rédiger des textes sur des sujets présélectionnés. Ils pouvaient, par exemple, se prononcer sur l'art. Les œuvres d'art peuvent-elles changer la vie des gens? Ou sur le courage? Est-il le plus courageux de montrer sa vulnérabilité ou sa force? Le premier groupe avait le droit d'utiliser ChatGPT. Le deuxième pouvait utiliser un outil de recherche sur l'Internet. Et le troisième, baptisé « groupe cerveau seulement », n'avait accès à aucune ressource. Les chercheurs ont mesuré l'activité cérébrale des participants à l'aide de l'électroencéphalographie. Ils ont démontré qu'il y a un coût cognitif qui vient avec l'utilisation de ChatGPT. Il y a manifestement des différences importantes de connectivité cérébrale selon qu'on utilise ChatGPT, un autre outil, comme Google dans notre étude, ou rien du tout, explique Natalia Kosmina, scientifique au MIT Media Lab et auteure principale de cette recherche. Nous avons constaté que ChatGPT est ce qui a généré le moins de connectivité cérébrale chez nos participants. Moins que l'utilisation d'un moteur de recherche ou que le groupe qui n'utilisait que son cerveau, qui est celui qui a montré la connectivité la plus répandue, précise-t-elle. Elle ajoute que même si ChatGPT a été le seul outil d'intelligence artificielle testé, il n'y a aucune raison de penser que les résultats seraient différents pour d'autres. Avertissement. Il ne s'agit pas ici de preuves de pourrissement du cerveau, comme certains médias ont pu l'écrire, ce qui n'a pas plu à la chercheuse. Ça n'a rien à voir non plus avec le quotient intellectuel. La mesure nous permet de dire quelles régions du cerveau communiquent entre elles, dit-elle. Et l'impact est indéniable. Les chercheurs prévoient par conséquent que l'utilisation des robots conversationnels se traduira par une diminution probable des compétences d'apprentissage. C'est troublant, alors que les outils d'intelligence artificielle sont en train de devenir incontournables, notamment pour les étudiants. Je précise que la chercheuse, avec qui j'ai discuté lors d'une visioconférence, a tenu à dire que la portée de l'étude est limitée, notamment parce que la tâche effectuée par les participants était très spécifique et que ceux-ci étaient tous des étudiants d'université de la grande région de Boston. Par ailleurs, cette étude n'a pas encore été examinée par des pairs. Natalia Kosmina estime néanmoins que nous devrions être préoccupés par ce que son équipe a démontré. D'autant plus que les chercheurs ont aussi fait subir un autre test à certains des participants, lors duquel ils ont inversé les rôles. Ceux qui avaient à l'origine eu accès à ChatGPT ont dû rédiger un texte sans ressources. Résultat, leur activité cérébrale était réduite. D'autres, qui n'avaient eu accès ni à Google ni à ChatGPT initialement, ont cette fois pu utiliser l'outil d'intelligence artificielle et ont offert des performances plus solides. Ce qui laisse croire aux chercheurs qu'utiliser ChatGPT au tout début de cet exercice semble avoir altéré la rétention sémantique à long terme et la mémoire contextuelle des participants, limitant ainsi leur capacité à reconstruire le contenu sans aide. Tout cela mis ensemble, selon Mme Cosmina, montre un changement certain pour ce qui est de la pensée cognitive et potentiellement de la pensée critique lors de l'utilisation de cet outil. Ce n'est pas surprenant, mais nous pensons que cela doit être examiné plus en détail. Elle voudrait, par exemple, qu'on mène la même étude, mais sur des enfants, dont les cerveaux sont en pleine croissance et en plein développement. Je souhaitais aussi solliciter l'avis d'un chercheur montréalais dans le domaine de l'intelligence artificielle à ce sujet. J'ai contacté Christian Desrosiers du département de génie logiciel et TI à l'étude de technologie supérieure. Il a, justement, évoqué d'emblée l'impact potentiel des outils d'intelligence artificielle chez les jeunes. Je lui ai demandé si ça l'inquiète. « Oui, j'ai des inquiétudes », a-t-il répondu. « Je me demande, est-ce qu'ils vont apprendre à réfléchir par eux-mêmes? J'utilise ChatGPT pour aller chercher l'information et des fois pour paraphraser. Mais lorsqu'il s'agit vraiment de réfléchir, d'émettre ses propres opinions, ses propres arguments, je pense que c'est quelque chose qui doit être fait par nous-mêmes », ajoute le professeur Desrosiers. Il juge l'étude très bien réalisée et estime, lui aussi, que la prochaine étape sera d'examiner les conséquences pour les jeunes. Ça, l'étude n'en parle pas, mais émet des hypothèses. Notamment que ça va peut-être entraîner des lacunes au niveau du développement et que ça va diminuer les capacités d'apprentissage, souligne-t-il. Il dit avoir aussi jugé très intéressante l'énumération, dans l'étude, d'autres types de problèmes potentiels liés aux outils comme ChatGPT. La diminution des interactions sociales en classe, par exemple, ou la similitude des réponses obtenues par ceux qui les utilisent. Ils ont mesuré l'uniformité des compositions dans les groupes et ils se sont rendus compte que le groupe qui utilisait les outils comme ChatGPT avait souvent exactement les mêmes arguments et les mêmes réponses, souligne-t-il. Loin de moi l'idée d'être catastrophiste. Les outils d'intelligence artificielle générative sont dans bien des cas sensationnels. Comme bien d'autres, j'aurais aujourd'hui du mal à m'en passer. Mais il apparaît chaque jour un peu plus clair qu'on en sait encore trop peu sur leur impact sur nos capacités cognitives. C'était « Et vous, comment va votre cerveau? » Un texte d'Alexandre Sirois, paru le 20 août 2025 dans La Presse.
Que veut dire « faut revoir » Un texte de Sylvain Sarrazin, paru le 7 septembre 2025 dans La Presse. Coup de projecteur sur un mot de vocabulaire intriguant ou étonnant, naviguant dans l'air du temps. Carte d'identité. faut revoir. Définition. Situation lors de laquelle deux personnes qui sont sur le point de se quitter se saluent alors que, de manière imprévue, leur rencontre se prolonge. Grand dictionnaire terminologique. Formation. Mot valise composé de l'adjectif « faux » et du nom « au revoir », tous deux issus du latin. Attestation. Formé en 2025 par deux élèves de l'école secondaire régionale Riverside et retenu par l'OQLF dans le cadre du concours de créativité lexicale. Un cas d'école. Il nous est arrivé à tous de vivre le petit malaise de salutation aboutissant à la relance d'une discussion. Or, aucun mot n'existait en français pour désigner une telle situation jusqu'à cette année. Et en cette période de rentrée des classes, c'est justement deux élèves d'une école secondaire saguenéenne, Nathan Morin et Nathan Tremblay, qui avaient forgé et soumis ce néologisme dans le cadre du concours de créativité lexicale organisé par l'Office québécois de la langue française, OQLF. Chaque année, nous proposons trois concepts proches de la réalité des jeunes pour lesquels il n'existe pas de désignation en français, mais aussi une catégorie de concepts libres pour laquelle les élèves font part à la fois d'un concept et d'une définition. Ce fut le cas de « faut revoir », explique Annie Galarneau, directrice de l'expertise linguistique à l'OQLF. Attirant et transparent. Pour remporter les honneurs de ce concours de néologisme soumis aux écoles québécoises, les termes doivent, en plus d'être bien formés sur le plan linguistique, être suffisamment évocateurs de la réalité qu'ils décrivent. « Faut revoir » est un excellent exemple. Le mot « valise » fusionnant ces deux parties autour de la syllabe commune « au », tout en restant très intelligible au premier abord. On veut également qu'il y ait quelque chose d'attirant et d'agréable pour s'assurer que le néologisme s'implante bien, poursuit Annie Galarneau. Voyage en néologie. La cuvée 2025 du concours de créativité lexicale a fait la part belle au mot valise. Faut revoir s'étant imposé aux côtés de célébloui. Perdre ses moyens en face d'une célébrité et d'évitango. Vous savez, quand deux piétons exécutent des petits pas pour s'esquiver sur un trottoir, mais se tassent du même côté. Il va sans dire que la jeunesse est friande de termes ainsi forgés, mais pas seulement. Oui, les jeunes sont attirés par les mots valises, mais au fil des années, nous avons eu des propositions différentes, avec des formations plus traditionnelles, précise Mme Galarneau. Par exemple, nous avons eu « surréussir » ou « sociomuselage » lors de précédentes éditions du concours. Question d'implantation. Outre l'aspect ludique du concours de néologisme, ce dernier a également des visées de vitalité linguistique, et c'est pourquoi leur potentiel d'implantation est également un critère pour le jury, composé de membres de l'Office. On a considéré que « fourvoir » pourrait rapidement être adopté par la population qu'il découvrirait. Moi-même, j'ai commencé à l'utiliser à plusieurs reprises. On veut permettre aux jeunes de contribuer à l'enrichissement de la langue, et que ces nouveaux mots est une vie, insiste la directrice de l'expertise linguistique. S'ensuit alors un travail de diffusion, histoire de disséminer dans l'usage les néologismes, lesquels sont intégrés à la vitrine linguistique de l'OQLF, obtenant une existence officielle. La majorité du temps, les réactions sont très positives et on constate que leur emploi fait boule de neige, conclut-elle. À vous de jouer. D'après vous, parmi ces trois néologismes, lequel n'a pas été primé dans le cadre du concours de créativité lexicale? Sois denté, c'est-à-dire nettoyer les interstices des dents au moyen de soie dentaire. Pokémon, désignant un jeune joueur de hockey évoluant particulièrement vite. Instavidéaste, soit une personne qui diffuse en direct sur une plateforme de diffusion en continu du contenu multimédia dans lequel elle intervient. Bonne réponse? B. C'était « Que veut dire fourvoir? » un texte de Sylvain Sarrazin, paru le 7 septembre 2025 dans La Presse.
L'exercice régulier renverse une prédisposition génétique au cancer. Un texte de Richard Béliveau, paru le 19 novembre 2023 dans le Journal de Montréal. Chez des patients atteints du syndrome de Lynch, génétiquement prédisposés à développer un cancer du côlon à bas âge, de l'exercice intense parvient à réduire le risque de cancer. Notre vie est le résultat de l'interaction entre les gènes légués par nos parents, la génétique, et l'ensemble des modifications que notre mode de vie fait subir à ces gènes, l'épigénétique. Tout n'est donc pas décidé à la naissance. Par exemple, on peut naître avec un gène qui prédispose à l'obésité ou encore être touché par un cancer, mais à de rares exceptions près, les cancers pédiatriques ou certaines maladies génétiques graves, ces gènes ne sont qu'un des aspects impliqués dans le développement de ces maladies. Une prédisposition génétique qui est bien réelle, mais qui demeure néanmoins fortement influencée par une foule de facteurs extérieurs, en particulier par nos habitudes de vie. Nous sommes ce que nous faisons de nos gènes par notre mode de vie. Le syndrome de Lynch, cancer colorectal héréditaire sans polypose HNPCC, est un bon exemple d'une prédisposition génétique qui hausse le risque de cancer. Ce syndrome augmente dramatiquement le risque de cancer colorectal, 60% de risque de développer la maladie au cours de l'existence, en raison de mutations qui interfèrent avec la réparation de l'ADN et favorisent ainsi l'apparition de cellules anormales pouvant devenir cancéreuses. Le syndrome de Lynch est parmi les syndromes de cancer héréditaire les plus communs, touchant environ une personne sur 300 et également associé à un risque accru de tumeurs de l'endomètre, de l'estomac, des voies urinaires, du pancréas, de la vésicule biliaire et du cerveau. Atténuer le risque. L'exercice représente une approche très intéressante pour mitiger le risque de cancer qui menace les personnes atteintes du syndrome de Lynch. D'une part, plusieurs études ont montré que l'activité physique régulière est associée à une réduction significative, 20%, de plusieurs types de cancers, incluant le cancer colorectal. D'autre part, une analyse rétrospective de patients atteints du syndrome de Lynch a révélé que ceux qui étaient les plus actifs, environ une heure de marche par jour, avaient un risque de cancer colorectal réduit d'environ 30% comparativement à ceux qui étaient sédentaires. Une étude récente suggère que cet effet protecteur pourrait être lié à l'action anti-inflammatoire et à l'amélioration de la réponse immunitaire de l'exercice. Dans cette étude, les chercheurs ont recruté des volontaires diagnostiqués avec un syndrome de Lynch, mais qui n'avaient pas de cancer colorectal diagnostiqué. Ils les ont séparés en deux groupes, soit un groupe témoin sans activité physique et un groupe intervention, où les participants étaient soumis pendant une année à un entraînement régulier sur vélo stationnaire. L'analyse biochimique des échantillons de sang prélevés durant l'intervention indique que l'exercice provoque une diminution importante des taux de prostaglandine, E2, une molécule inflammatoire qui joue un rôle très important dans le développement du cancer colorectal. Il est aussi noté que les patients soumis au programme d'exercice présentaient un nombre plus élevé de lymphocytes T, CD8+, et de cellules NK, tueuses naturelles, dans le sang, deux types de cellules immunitaires impliquées dans la reconnaissance et l'élimination des cellules cancéreuses. Ces résultats suggèrent donc que l'exercice influence positivement les systèmes immunitaires innés et adaptatifs et que cette modulation de l'immunité joue un rôle capital dans ses effets anticancéreux. Ce mécanisme est conservé chez les individus qui sont génétiquement prédisposés au cancer colorectal, offrant à ces personnes la possibilité d'adopter un mode de vie actif pour vaincre les mauvais gènes. Une preuve de plus que notre mode de vie est vraiment déterminant pour notre santé et que les choix quotidiens que nous faisons, alimentation, exercice, sommeil, régulation de notre poids corporel, jouent un rôle déterminant dans notre santé, même avec les plus mauvaises prédispositions génétiques pour une maladie aussi grave que le cancer. Nous ne sommes pas les victime impuissante de l'action de nos gènes, comme beaucoup aiment à le penser. C'était « L'exercice régulier renverse une prédisposition génétique au cancer », un texte de Richard Béliveau, paru le 19 novembre 2023 dans le Journal de Montréal.
Corps fantôme au théâtre Jean Duceppe, devoir de mémoire. Un texte de Denis Daniel Boulay, paru le 25 septembre 2025 dans le magazine Fugue. L'histoire des personnes LGBTQ+, fait partie de l'histoire du Québec, de la petite comme de la grande. Effacée, oubliée, beaucoup s'efforcent à la redécouvrir, à la rendre visible, à la préserver. Elle se doit d'être transmise aux nouvelles générations, indépendamment de l'orientation sexuelle et du genre. Et quoi de mieux que l'art, ici le théâtre, pour ressentir collectivement, au-delà d'une thèse aride et froide, la puissance et l'originalité de cette histoire de minorité. Pour ne pas oublier, certes, mais aussi pour éviter que les liens avec le passé et les générations ne s'effilochent. Corps fantôme. Violence et résistance. Nous sommes à Montréal, au début des années 1990, avec en toile de fond le sida, les descentes policières et une série d'hommes gays assassinés. Comment s'organiser alors pour résister et faire entendre une voix différente? Le projet est ambitieux, mais à la hauteur de l'audace de celles et ceux qui en sont à l'origine, soit Maxime Carbonneau et Danny Boudreau. Ambitieux, puisqu'il réunit 8 personnes à l'écriture d'un texte qui sera joué par une quinzaine de comédiens et comédiennes. En fait, tout commence en 2020, lors du premier confinement. On pouvait voir sa famille, mais on ne pouvait plus rencontrer la famille choisie. Cela nous a fait prendre conscience de l'importance des liens. Par exemple, on ne pouvait plus voir Claude Poisson autant qu'avant, alors qu'il était très important pour nous, avance Maxime Carbonneau. C'est alors que nous avons réfléchi à ce que représentait la transmission et au besoin d'en savoir plus sur ce qu'était le Montréal gay et culturel avant notre génération. Le nom de Claude Poisson est revenu souvent au cours de l'entrevue. Le comédien, metteur en scène et directeur du théâtre Denise Pelletier, décédé en juin dernier, était un ami très proche de Danny Boudreau et de Maxime Carbonneau. Sur ce projet, on a passé des nuits entières à écouter Claude nous raconter des histoires, à écouter des vinyles, raconte Danny Boudreau. En fait, il a servi de catalyseur, même s'il n'a pas participé ensuite à toute la recherche et à l'écriture. Présenté sur scène, un moment marquant de la communauté. Danny Boudreau et Maxime Carbonneau ont en tête Angels in America, dont la pièce, puis la mini-série, ont connu un grand succès. En France, il y a eu le film 120 battements par minute, ou encore en Suède, N'essuie jamais de larmes sans gants, qui se situait dans les années 1980, mais au Québec, nous n'avions rien, poursuit Danny Boudreau. Maxime Carbonneau a donc constitué un collectif de 8 auteurs-autrices avec un mandat exigeant, consulter des archives, notamment aux archives gays du Québec, et de rencontrer des témoins qui avaient connu la naissance du village, fréquenté les bars et participé à la vie nocturne. Nous souhaitions une personne, à la fois pour l'écriture et pour être sur scène, qui avait vécu cette période-là, précise Maxime Carbonneau. Christian Fortin, un de nos amis, a été un témoin et un participant de cette époque, un des premiers à porter le flambeau. Pour Christian Fortin, l'exercice fut confrontant, se replonger dans sa propre histoire tout en étant heureux que cette période ne tombe pas dans l'oubli. Au début des années 1990, j'avais 20 ans et j'arrive à Montréal. Je deviens serveur dans un bar du village et je vis la nuit comme beaucoup d'autres hommes gays. Je connais cette histoire par cœur, même si malheureusement la plupart de mes amis de l'époque sont morts, raconte-t-il. Le comédien a participé à l'écriture et se retrouve sur scène. On ne parlait pas de cette réalité dans les grands médias. Il y avait quelques figures un peu caricaturales comme Douglas Léopold ou Michel Girouard à la télévision, mais on ne parlait pas, ou très rarement, de la réalité des gays, des lesbiennes, des personnes trans. Le sida, la descente policière au sex-garage, les meurtres inexpliqués dans le village deviennent alors le ferment d'une résistance des communautés LGBTQ qui mènera à la création du comité « Dire enfin la violence » visant à prévenir les agressions contre les gays et les lesbiennes et à accompagner les victimes. Sur scène, les 5 protagonistes qui ont été à l'origine de ce comité seront incarnés Douglas Buckley Couvrette, décédé en 2002, Roger Leclerc, Michael Hendricks, René Leboeuf et Claudine Metcalfe, lire l'entrevue avec Claudine. Corps fantôme est une pièce en deux actes, précise Danny Boudreau. Dans le premier, on présente surtout la vie gay de Montréal avec en toile de fond le sida, bien évidemment, mais ce n'est pas le sujet principal. Dans le second, c'est plus politique, puisqu'on parle du commencement d'une résistance, de la relation entre la police et les communautés, mais aussi avec les politiciens. En fait, d'une communauté dont chaque membre est isolé, mais qui va commencer à se souder pour obtenir une reconnaissance. Une troisième couche peut être lue comme un trailer, puisqu'il y a des meurtres de gays auxquels la police n'accorde que peu d'importance. Il faudra la détermination et la persuasion de Michael Hendricks pour que les autorités commencent à envisager l'hypothèse d'un tueur en série. Un travail d'équipe. Comment, par un travail collectif, arriver à une pièce et un texte cohérent qui reflète l'apport individuel tout en l'insérant dans quelque chose de plus grand? La réponse appartient aux deux artistes qui ont créé leur compagnie, la Messe Basse, et qui ont une vision singulière et particulièrement parlante de ce que doit être le théâtre. Travailler en équipe ne nous est pas totalement étranger, commente Maxime Charbonneau. Pour nous, le processus de création doit toujours être à l'image du spectacle que nous voulons faire. L'un ne va pas sans l'autre. Avec toutes les contraintes que nous nous sommes données, il y a eu un travail dramaturgique extrêmement rigoureux sur la structure du texte, sur la temporalité, sur les dialogues. Danny Boudreau renchérit. On dit toujours que le théâtre transforme le public, mais pour moi, c'est plus que cela. Il faut que les comédiens et comédiennes soient aussi transformés par la matière qu'ils et elles abordent et que l'on sente cette transformation sur scène. Les seuls rôles qui m'attirent comme comédien, ce sont ceux qui me transforment profondément. Sinon, cela ne m'intéresse pas. Avec Corps fantôme, c'est une partie d'une immense fresque invisibilisée, oubliée, qui se retrouve sur scène, mêlant la grande et la petite histoire des communautés LGBTQ+. Loin d'être une simple photographie, on y retrouve des références à une histoire plus ancienne, tout en entrant en résonance avec ce que nous vivons aujourd'hui. Elle révèle les fils conducteurs de cette mémoire qui n'ont jamais été rompus, simplement trop souvent enfouis. Corps fantôme, peut-être. Alors souhaitons qu'ils viennent nous hanter longtemps pour ne pas oublier. Corps fantôme, du 22 octobre au 22 novembre 2025, au Théâtre Jean Duceppe. C'était Corps fantôme au Théâtre Jean Duceppe, devoir de mémoire. Un texte de Denis Daniel Boulay, paru le 25 septembre 2025 dans le magazine Fugue.